Bonjour tout le monde, un très bon début de semaine à vous. On a beaucoup de choses au menu pour aujourd'hui. On aura la visite tout à l'heure en deuxième heure d'émission d'une auteure que vous aimez, Francine Ruel, qui est comédienne aussi. On se souvient de son rôle dans Scoop. Ça remonte à il y a longtemps, mais quand même, elle est toujours dans notre cœur et surtout qu'elle vient de sortir un livre, Anna et l'enfant vieillard, qui fait beaucoup parler. On discutera avec elle. Vous savez qu'elle a écrit une saga de 4 livres sur le bonheur. Et là, ce dernier livre tranche un peu avec cette saga. Francine Ruel, donc, en deuxième heure d'émission. On aura également la chronique « Occupe-toi de tes affaires, sinon les autres vont s'en occuper pour toi, peut-être, puis pas dans le sens que vous voulez. » Est-ce qu'on peut se protéger d'une éventuelle crise financière? C'est la question qu'on va poser à notre spécialiste Fabien Major, qui va nous dire comment essayer de... Parce que vous savez qu'il y a des rumeurs de récession qui courent, surtout aux États-Unis, mais en général, quand les Américains sont touchés par quelque chose, nous aussi, ça prend pas de temps que ça nous arrive. Donc, est-ce qu'il y a moyen de protéger nos REER? Qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger nos biens et le peu qu'on a d'une éventuelle crise financière. En première heure d'émission, je vous propose tout de suite qu'on en discute, puis ça tombe bien parce que je vous écoutais intervenir, mon collègue Paul Arcan vous poser la question, où est-ce que vous en êtes dans l'environnement? Comment vous vous sentez par rapport à cette semaine qui est quand même historique? Là, on prévoit qu'il y ait peut-être des milliers de jeunes et moins jeunes qui marchent vendredi prochain de cette semaine, le vendredi, pour faire connaître leur inquiétude par rapport à ce qui se passe sur la planète, dans le climat. Et en même temps, c'est sûr que nous, on utilise notre voiture régulièrement, on est dans un pays où sans voiture, on le sait, vous me le dites régulièrement, c'est difficile de se déplacer. Alors, ce matin, parce que c'est une rumeur aussi, disons que c'est pas qu'une rumeur, c'est que c'est une suggestion qui est sortie d'un rapport, et c'est de ça dont on va parler, faut-il augmenter la taxe sur l'essence? Et là, je vous entends déjà, oh, wow, un instant, hey, on paye déjà assez cher comme ça. Vous n'avez pas tort, et c'est vrai que augmenter les coûts de transport, on peut s'attendre presque du jour au lendemain à une hausse des biens et services, déjà que on le sent, dès qu'il y a une augmentation, par exemple, du prix du pétrole à la pompe, il y a une augmentation des coûts de transport et donc ça se reflète dans d'autres biens que vous pouvez acheter. Alors, vous l'avez vu, le prix de l'essence qui a fait un bond la semaine dernière dans plusieurs régions du Québec. Est-ce qu'il faut être d'accord avec ce comité d'experts qui nous propose justement, qui dit il est temps de hausser la taxe sur l'essence au Québec? Pourquoi? Pour financer le réseau routier, améliorer le transport en commun. On veut même ramener des péages. Pour en discuter, Florence Jonca Adeneau, qui est professeure au département d'études urbaines à l'UQAM, elle est porte-parole de l'Alliance Transit. Bonjour, Madame Jonca Adeneau. Vous êtes, entre autres, vous êtes beaucoup intéressée à cette question. Vous signez donc ce rapport, réduire les émissions de gaz à effet de serre en transport au Québec en tarifant adéquatement le déplacement motorisé. C'est un long titre qui nous amène des hausses de taxes, en fait. C'est ça, qui propose des hausses de taxes.
Oui, mais il faut mettre en contexte les hausses de taxes. Il faut comprendre qu'au Québec, l'entretien et le développement du réseau routier et des transports collectifs, c'est essentiellement payé par la taxe sur l'essence et la taxe sur l'immatriculation. Or, avec les véhicules moins énergivores, avec l'augmentation des véhicules électriques, les revenus de cette taxe ont commencé à décroître. Alors que les besoins en maintien du réseau routier, en maintien des actifs, les besoins de développement des transports collectifs sont en croissance assez phénoménale. Et s'ajoute à ça le fait que tout le monde s'entend qu'il faut travailler pour diminuer les gaz à effet de serre. L'automobile et la principale, l'automobile et le camion, sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans le domaine des transports, qui fait que nous avons augmenté notre production de GES de 36% depuis 90, alors que tous les autres secteurs industriels avaient réussi à diminuer. Donc, pour rencontrer ce deuxième but, il faut développer les alternatives à l'auto solo de façon majeure.
On va y revenir, bien sûr. En même temps, quand vous parlez du CO2 25 fois plus polluant, vous faites bien de préciser dans le transport, parce qu'en matière de gaz à effet de serre, on sait que c'est le méthane qui est beaucoup plus polluant que le CO2. Je me trompe pas.
Exact.
Normand Mousseau est professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Bonjour, Normand.
Bonjour.
Vous réagissez comment par rapport aux suggestions de Florence Jonca Adeneau et de ce rapport? Prochaine station, l'éco-fiscalité, c'est comme ça qu'on appelle ça?
Oui, il faut certainement mettre un prix sur la pollution, sur le coût de CO2, mais il faut comprendre que la vitesse avec laquelle on doit bouger fait en sorte qu'on ne pourra pas augmenter le prix assez vite pour y arriver, pour se transformer. En parallèle avec une augmentation du prix, et même un peu en amont, il va falloir mettre en place des solutions pour que les gens y trouvent leur compte, y trouvent une façon d'éviter de se faire...
Mais pour vous, ce rapport-là, est-ce qu'il est connecté sur la réalité?
Moi, je pense qu'il manque un grand bout. Il manque tout le bout de transformation à côté, parce qu'on ne peut pas juste taper. Et d'ailleurs, on le voit dans leur modèle, même en augmentant de manière importante les coûts sur l'essence, on voit qu'on peut réduire d'à peu près seulement, 20 % à peu près, la demande en transport. Donc, on est très loin de faire la transformation qu'il faut.
On va parler en détail des scénarios, là, puis je suis sûr que les gens vont pouvoir réagir là-dessus.
Mais je peux peut-être juste finir.
Oui, allez-y.
Je suis très heureux que ça soit de ça dont on parle. On parle maintenant de dire comment on atteint nos cibles.
Voilà.
C'est le débat qu'on doit faire.
On est dans
les
solutions.
Plus dans est-ce qu'il y en a ou non. On dit il faut aller vite et discutons de comment on s'y prend.
Oui, mais c'est amusant que ça soit toujours aller chercher dans la poche pareil des gens. Puis c'est probablement ce que beaucoup d'auditeurs risquent de dire ce matin. Puis j'en profite pour vous donner nos numéros pour nous joindre. À Montréal, vous faites le 514-790-9850. De l'extérieur, sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. C'est sûr que parmi les scénarios, puis on va revenir sur chacun plus en détail, mais il y a beaucoup la notion d'utilisateur-payeur. Il y a une notion intéressante aussi de pollueur-payeur, si on l'entend moins. Hein. Mais bref, il y a toujours quelqu'un qui va falloir qu'il paye pour ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de trouver des façons de faire différentes sans aller chercher toujours de l'argent dans la poche des gens? Bon, évidemment, peut-être que je rêve, là, mais où je suis naïve. Marc-Antoine Desjardins, avocat, citoyen montréalais, cycliste. Il est venu d'ailleurs en vélo, malgré la pluie, ce matin. Merci d'être là.
Bonjour.
Vous êtes intéressé à la politique. Vous avez même été candidat à la mairie du Plateau-Mont-Royal à Montréal.
Je le suis actuellement.
Vous l'êtes, c'est ça. Vous voulez succéder à quelqu'un qu'on connaît bien ici, Luc Ferrandez.
Oui, votre chroniqueur.
Exactement. Bon, vous avez regardé là, ce fameux rapport.
Oui.
Prochaine station, l'éco-fiscalité, réduire les émissions de gaz à effet de serre en transport, en tarifant adéquatement les déplacements motorisés. Comment vous réagissez par rapport à ces suggestions?
C'est un peu comme vous. Je trouve qu'on est toujours en train de se faire ramener le même argument qu'il faut qu'on aille chercher un peu plus dans la poche des contribuables. Si on fait juste mettre les choses en perspective, il y a déjà une taxe sur l'immatriculation pour les véhicules, les gros cylindrés qu'on appelle. Si on fait simplement augmenter la taxe sur l'essence, c'est la façon la plus simple, la plus, à mon avis, lâche dans le contexte actuel parce que on va aller taper, on va encore aller frapper les classes moyennes et plus et moins fortunées, les gens qui sont plus à faible revenu.
Et qui n'ont pas le choix de prendre leur véhicule, par exemple.
Qui n'ont pas le choix parce que le transport en commun, c'est une réalité urbaine, essentiellement. Si vous habitez dans les couronnes, ce n'est pas la même chose. C'est pas tout le monde qui peut se payer un condo à 400 000 sur le plateau Mont-Royal non plus.
Ça, c'est un petit condo.
C'est un petit condo maintenant. Ou un plex à 1 million.
Oh,
c'est un petit plex.
C'est
un triplex.
Ouais. Florence Joncadenot, bon, vous voyez que mes deux invités, Normand Mousseau et Marc-Antoine Desjardins, ont certaines réticences. Comment vous pourriez expliquer? Prenons les scénarios que vous suggérez. Entre autres, par exemple, il y a 5 scénarios. Le 1, c'est on fait rien. C'est le cours normal des affaires. C'est bien ça? Donc, celui-là, on n'en parlera pas trop. Le statu quo, c'est jamais intéressant à débattre. 2, c'est pollueur-payeur. Là, vous suggérez une hausse de 46 sous du litre de la taxe sur les carburants sur le territoire du Québec. Le scénario numéro 3, utilisateur-payeur, tarification routière de 15 cents du kilomètre sur le territoire du Grand Montréal. Scénario 4, c'est à la fois le 2 puis le 3 ensemble, c'est-à-dire pollueur-payeur, utilisateur-payeur, tout le monde paye, c'est-à-dire le fameux 46 cents le litre de la taxe sur le carburant sur le territoire du Québec, plus une tarification routière de 15 cents du kilomètre sur le territoire du Grand Montréal. Parlons de celui-là en particulier. Est-ce que vous pensez effectivement que c'est réaliste? Parce que ça fait beaucoup d'argent. Là. Quand je vois 46 cents le litre de la taxe sur les carburants, c'est énorme.
Écoutez, c'est parce que il faut prendre ça comme un tout. On manque de revenus avec la taxe sur l'essence et la taxe sur l'immatriculation qui diminue actuellement. Et les propositions qui sont faites sont des scénarios pour montrer de quoi on a besoin, à la fois pour combler le manque à gagner, mais aussi pour développer les services qui vont donner un avantage pour que les personnes qui veulent quitter leur voiture le puissent. Donc, pour développer les transports collectifs et les transports actifs. Et les scénarios montrent un transfert progressif de la taxe sur l'essence qui va de toute façon diminuer, vers des péages que l'on peut moduler.
Madame,
les péages existaient à une époque.
Ouais, là, vous voulez ramener les péages. Marc-Antoine?
Permettez-moi, Madame Adonneau, j'ai un cas, bonjour.
Oui.
Dans les années, sauf erreur 70, il y avait des péages sur les ponts. On avait aussi des tramways. Je vous pose la question collectivement. Où serions-nous aujourd'hui si nos politiciens de l'époque avaient eu le courage de ne pas tomber sous le charme du lobbyisme pétrolier et automobile de l'époque? Rappelez-vous, il y avait même un tramway sur le Mont-Royal. Il y avait des tramways sur pratiquement toutes les grandes avenues de la ville. Mon Dieu, Sainte-Catherine, pensons à la Mont-Royal. Je pense qu'il y en avait même un sur Saint-Laurent. Je me souviens plus, là, j'étais pas encore conçu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une lâcheté politique à l'époque qui a dit qu'il a décidé de prendre le virage automobile. Parce que soi-disant, c'était avantageux d'avoir des autobus qui allaient fonctionner à l'essence, avoir des pneus de Firestone. Donc, on est tombé sous l'espèce de discours du lobbyisme. Et là, tout après, parce qu'on se rend compte que finalement, la crise environnementale est très importante, là, tout d'un coup, on veut viser les gens qui n'ont pas pris ces décisions-là et on veut faire une espèce de rattrapage quand on peut cibler d'autres objectifs, à mon avis, beaucoup plus coercitifs.
Comme?
Ben, on peut hausser la taxe sur les voitures qui sont plus énergivores. On peut demander une révision du paiement du 2/3 du fonds vert. On peut hausser le fonds vert. On a vu les scandales dernièrement parce que la gestion était tout à fait bordélique.
Ouais.
Est-ce qu'on peut, au lieu de subventionner des oléoducs de Lévis à Québec, on peut-tu, mon Dieu, je pense qu'il y avait une subvention d'oléoduc, on peut-tu mettre l'argent du fonds vert à des meilleurs objectifs d'efficacité énergétique? Est-ce qu'on peut donner une chance aussi à la classe moyenne de faire le virage énergétique également?
En fait, l'idée, c'est qu'il faut une fiscalité, mais en même temps, il faut agir sur d'autres fronts. Et il est trop tard. Quelqu'un qui vient de s'acheter une voiture, qui n'a pas les moyens de changer, tout ce qui va se retrouver, c'est être pénalisé avec cette taxe-là. Donc, il faut mettre ça en place en annonçant puis en mettant des mesures pour faciliter la vie aux gens les plus pauvres. Donc, tout cet argent-là ne peut pas aller simplement...
Mais est-ce que ce n'est pas rêvé que de penser qu'il y aura zéro coût? Là? Ce que Florence Jonca-Adenau nous dit avec son comité d'experts, ils sont quand même intéressés à la chose. C'est un rapport sérieux, votre rapport de l'Alliance Transit. Je l'ai devant moi. Il est vraiment bon. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, je pense, comme travail d'analyse. En même temps, c'est sûr qu'en termes de conclusion, se faire dire qu'on va payer plus, ça nous met jamais de bonne humeur. En même temps, est-ce que c'est aussi réaliste de dire il faut financer des besoins toujours accrus en transport collectif, mais ça ne coûtera rien à personne?
Non, ça va coûter. Et c'est sûr qu'il va. La question, c'est qui va payer et comment on le fait payer. C'est-à-dire qu'on doit d'abord donner des alternatives aux gens avant de commencer à leur taper dessus.
Ouais.
Si on augmente la taxe sur l'essence rapidement, dans les couronnes, par exemple, les transports en commun sont pleins. On va fermer le train de banlieue vers Deux-Montagnes pendant 4 ans. Comment est-ce que les gens peuvent échapper à cette taxe-là, échapper à la pénalité? Et c'est ça qu'il faut concevoir. Il faut un tout qui va diminuer. Et comme disait
Marc-Antoine,
taxer dès au présent les véhicules quand on les achète, ben là, c'est au moins avant de faire le choix que tu t'es éclairé.
Mmh.
Donc ça, c'est un bon moment. Puis ensuite, on peut aviser qu'on va monter la taxe sur 8 ans à un
Donc
niveau
vous,
même
vous
plus élevé.
Vous augmenteriez le prix des véhicules, entre autres, plus énergivores.
Oui, à l'achat. Donc là, si on décide d'acheter, ben on est conscient que ça va nous coûter cher.
Et j'irais plus loin aussi à chaque renouvellement de vos immatriculations. À chaque fois que vous payez
on paye déjà.
On paye déjà un 30$ depuis 2011, un 45$ depuis, je pense, 2016 pour la Montréal. Donc, on paye déjà plus dans la région montréalaise. Mais il y a aussi une chose que je veux revenir parce que j'ai lu...
Après la pause, si vous voulez
bien
Marc-Antoine, il faut vraiment qu'on y aille.
On paye les loyers.
Vous restez tous là. On va revenir aussi avec des commentaires d'auditeurs. Et puis, Florence Jonca-Adenau pourra poursuivre son explication pour nous dire pourquoi ça serait important qu'on comprenne que c'est ça qu'il nous faut. Vous pouvez nous joindre au 514-790-9850. Faut-il augmenter la taxe sur l'essence? Je pourrais vous rajouter, faut-il ramener aussi les péages? Mais on va prendre la taxe déjà, c'est une grosse affaire en ce lundi matin. On vous parle tout de suite après la pause. On se demande ce matin, est-ce qu'il faut augmenter la taxe sur l'essence? D'où ça vient cette suggestion? Ça vient du rapport d'un groupe qui s'appelle l'Alliance Transit, qui a fait une étude dont le titre est « Prochaine station, l'éco-fiscalité ». L'éco-fiscalité, c'est quoi? Peut-être Florence Jonca-Adenau est mieux placée que moi pour vous l'expliquer. Si on essaie d'analyser vraiment cette expression éco-fiscalité, Florence, comment vous l'expliqueriez aux gens?
L'écofiscalité, ce sont des mesures financières qui vont permettre de donner un prix à un service au coût qu'il est, au coût réel qui interne l'ensemble de ses coûts. Alors, par exemple, quand on utilise la route actuellement, la route est gratuite. Le péage vient mettre un prix, un coût, sur cette route qui est gratuite.
Ouais. Mais vous dites que la route est gratuite. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on paye quand même de nos impôts pour le ministère des Transports qui a en charge l'administration donc de la fiscalité routière. C'est comme de dire les soins de santé au Québec, c'est gratuit. Non. Les routes ne sont pas gratuites. Disons qu'on n'a pas de péage, ça c'est sûr, on en a déjà eu, mais cette notion de dire la route est gratuite, je ne sais pas ce que mes invités en pensent.
Je veux revenir avant la pause. Madame Junca, si vous permettez, j'ai lu votre rapport, Alliance Transit, tout ça. Vous faites mention que les coûts socio-économiques sont de 4,2 milliards en 2018 au niveau de la congestion. Je veux juste vous faire une petite parenthèse au niveau de la congestion qui est créée par des mauvaises décisions administratives. Ça, est-ce que vous en faites part dans votre étude lorsque des voies réservées ne permettent pas le covoiturage que vous appelez la... vous avez appelé ça la mobilité de véhicules multi-occupants. Quand vous ne permettez pas les voitures électriques sur les voies réservées, que ce soit Sherbrooke, René-Lévesque, Papineau maintenant, avec le covoiturage, on crée une congestion artificielle. Il y avait moins de congestion avant qu'on mette la voie réservée. Et là, comprenez-moi bien tout le monde, je suis pour les voies réservées, mais je veux qu'on y inclut les cyclistes, les voitures multi-occupantes, les voitures électriques et le transport collectif. À mon avis...
Et tout ce monde-là va payer, Marc?
Non, pas du tout. Pas à terme, pas tout de suite. Okay. Mais on doit démocratiser la voie réservée parce qu'entre deux autobus, là, ça se fait à Québec, ça se fait dans d'autres villes du pays. Et je veux dire, la cohabitation se fait, les vélos également. On peut... Puis sur Sherbrooke, là, on a du covoiturage d'une section de la voie réservée, mais dès qu'on arrive dans un autre arrondissement, c'est arrêté.
Oui, mais il n'y aura pas de vélo sur les autoroutes, là.
Non plus, pas sur les autoroutes, je parle des voies réservées.
Je comprends, okay. Oui, Florence, allez-y.
Le rapport, ce qu'il dit, parce qu'il dit beaucoup de choses, hein.
Oui.
Mais il ne dit pas qu'il faut taxer pour taxer.
Il faut taxer pour les routes, oui.
Son revenu diminue. Taxe sur l'essence et taxe sur l'IMAT qui finance le maintien des routes et qui finance les transports collectifs. On n'a pas le choix, il faut trouver une source alternative.
Ah, mais vous le dites en une phrase dans votre rapport, très clair, puis les gens vont bien la comprendre. Vous dites que le Québec est engagé, bien malgré lui, sur la voie d'une diminution majeure des revenus issus de la taxation des carburants. Et c'est à cause de ça que vous dites, si on n'a plus de taxes sur l'essence, assez suffisante pour payer tous les coûts de transport et de transport collectif, on n'aura pas le choix, il va falloir augmenter la taxe actuelle pour compenser les pertes.
Et se diriger vers des péages. Et pourquoi? Parce qu'il faut aussi qu'on investisse un plan Marshall. Il faut qu'on investisse de façon majeure dans toutes les alternatives à l'auto-solo.
Ouais.
Partout où c'est possible de le faire.
On a Normand qui nous appelle, un auditeur. Bonjour Normand. Est-ce que une taxe sur l'essence, Normand, est-ce que ça vous paraît réaliste? On comprend l'enjeu, là. Je pense que Mme Junca Adenau nous l'a bien expliqué. Je vous encourage tous d'ailleurs à aller lire ce rapport de l'Alliance Transit parce qu'on parle de réduction des gaz à effet de serre. C'est la semaine pour en parler, en particulier en transport. Au Québec, on se déplace beaucoup avec des véhicules. Vous, Normand, là, seriez-vous ouvert à ça, une augmentation de la taxe sur l'essence?
Malheureusement, ce que je trouve dans cette approche-là, c'est que c'est un manque d'imagination complet et total. D'augmenter les taxes, c'est la facilité. Par contre, si on cherche des vraies solutions, il y en a très faciles. Je vous en nomme une qui m'a toujours passé par la tête. Faites respecter les limites de vitesse sur les autoroutes. Si vous faites juste respecter ça, au lieu de rouler à 120, je roule à 100. Ce qui veut dire que le 20% de consommation de plus de mon véhicule, qui émet aussi des GES, il disparaît. On augmente la sécurité, on augmente la qualité de l'air, on diminue le bruit et tout ça. Et c'est facile à faire. Mais on dirait que non, on s'en va vers la facilité. Puis c'est pas parce que vous allez augmenter la taxe sur l'essence qu'il va y avoir moins de consommation. Vous l'avez dit tantôt, le choix des citoyens qui ont déjà opté pour avoir un véhicule de telle nature ne peuvent plus revenir en arrière. L'habitude est créée complètement.
Merci beaucoup, Normand. Merci.
L'habitude va falloir la changer.
Normand Mousseau.
Il est certain. Ouais. On peut pas continuer à avoir des gros véhicules énergivores. Donc, il faut pénaliser ça, mais il faut le pénaliser en amont.
Il y en a moins quand même.
Il y en a moins, mais il reste gros, il reste lourd. Et il y en a moins parce que la consommation baisse, parce qu'on a mis en place des normes qui réduisent la consommation des véhicules.
Ouais. Il y a toujours beaucoup
plus de SUV qu'il y en avait sur les routes présentement.
Oui. SUV léger, oui.
Puis j'irais un autre
aspect. Il y en a qui vont vous dire aussi, là, j'aimerais ça que mes gars de char soient là, Benoît Charrette et Antoine pourraient vous le dire. Et c'est vrai qu'on a toujours, puis au Québec, on est les champions du F-150 puis du gros pick-up puis du gros 4x4, mais ils sont quand même moins énergivores aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 20 ans. C'est un fait.
Absolument. Ouais. Mais j'irais un autre aspect qui manque dans le rapport, c'est l'aspect transport de marchandises, qui est aussi responsable en bonne partie pour la dégradation des infrastructures routières. Donc, on peut pas demander aux automobilistes de payer l'entièreté de la dégradation ou du maintien des infrastructures routières parce qu'ils sont pas responsables d'une bonne partie de cette dégradation-là.
Moi, j'ai une question aussi.
Oui, parce que Florent Jeancard doit nous quitter dans quelques minutes. Oui.
Le rapport ne l'aborde pas, mais combien nos sociétés de transport ont besoin d'argent pour avoir un réseau à la hauteur de leurs attentes?
Tu veux dire combien de vice-présidents puis de petits boss ils ont besoin pour gérer ces millions?
Le budget d'Estem, c'est 1,5 milliard. J'aimerais avoir des études sur l'impact du parc automobile. Tout à l'heure, en m'en venant à vélo, je voyais un véhicule, c'est un gros SUV de la STM. C'est quoi qui transporte des pelles, transporte des vélos, transporte des bixi? Non, c'est un véhicule de fonction.
Véhicule électrique?
C'était pas un véhicule électrique. Non, c'est une voiture Chrysler, une espèce de petit camion, là. Pas le pilote, là. En tout cas, c'est un camion, une camionnette, là. OK, STM. Je comprends qu'il y a peut-être des voitures de fonction, mais est-ce qu'on pourrait repenser aussi le modèle du parc automobile des administrations?
Oui, tout à fait.
Pour qu'ils prêchent par l'exemple.
Ouais. Florent Jeancard de nous.
Oui, je dois vous quitter.
Oui.
Malheureusement. Mais écoutez, nous, ce qu'on fait simplement, on fait des scénarios, on montre des résultats. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'attirer l'attention sur vraiment.
Mais oui, mais en même temps, Madame Adenau, là-dessus, est-ce que vous vous êtes dit on va lancer une bombe parce que c'est quasiment ça là ce matin que vous nous dites on va augmenter les taxes sur l'essence puis pas 2 cents là, vraiment beaucoup. On va lancer ça un peu pour voir comment le monde va réagir. Vous vous attendiez à ce que tout le monde soit contre ça. Donc êtes-vous en train de me dire que c'est conscient, vous faites exprès, vous voulez créer une onde de choc?
On ne dit pas qu'on le fait exprès, on dit la vérité. Si on a nos revenus qui diminuent pour entretenir nos routes et les transports collectifs, et si on doit faire un plan Marshall d'intervention majeure sur les transports collectifs, mais aussi pour le transport des marchandises, parce qu'aller vers le péage touche le transport des marchandises, on met sur la table le fait qu'on n'a pas le choix de rien faire. Le fait de ne rien faire coûte encore plus cher. La congestion augmente, les gaz à effet de serre augmentent, donc, il faut agir. Donc, on le met sur la table et je suis tout à fait d'accord avec tous ceux qui disent, d'ailleurs, le rapport, il le dit clairement, il faut agir en amont. Il faut être capable d'offrir, comme Londres l'a fait 3 ans avant l'instauration des péages autour de la cité, donc développer une offre incroyable de transport collectif. Quand le péage a été installé, l'usage de l'automobile a diminué de 35%.
Mais 110 millions de personnes, madame.
Il faut trouver des mesures adaptées à chaque milieu. Mais il faut agir. Oui. Actuellement, on n'agit pas beaucoup. On dit que les gaz à effet de serre, c'est quelque chose d'important. Il faut le diminuer. La congestion, ça nous coûte 4,5 milliards. Il faut le diminuer. On a d'autres moyens. On peut aussi éviter d'habiter trop loin, diminuer le nombre de kilomètres et aller vivre à côté des endroits où on travaille. Les organisations peuvent aussi utiliser beaucoup plus le télétravail. C'est toute une foule de moyens auxquels il faut réfléchir en même temps, mais il faut aussi se soucier que notre source principale qui finance les transports au Québec, elle décroît. Et il faut faire quelque chose. C'est à ça qu'on s'est attaqué avec une vision d'ensemble, pas simplement pour taxer le monde.
Mais 46 cents le litre de la taxe sur les carburants partout au Québec, 15 cents le kilomètre dans la grande région de Montréal, c'est juste pas réaliste.
Progressivement, ben, écoutez, il va bien falloir trouver des compensations au fait que les revenus actuels, ils diminuent. C'est pas pour rien que le gouvernement, il y a actuellement un chantier sur le financement qui réfléchit à travers tout le Québec sur quoi faire pour financer les transports en ce moment.
Mais il y a un auditeur qui me rappelle très justement qu'on donne des millions, pour pas dire des centaines de millions aux pétrolières. Peut-être qu'on pourrait prendre cet argent-là puis le mettre là.
En fait, si on regarde au Québec...
On pourrait le faire. Nous, on lance, comment dire, on lance l'alarme en disant il faut bouger.
Ah oui, vous lancez un gros pavé dans la mare et là, on est tous éclaboussés ce matin, on n'en revient pas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Florence Jonca-Deneau est professeure au département d'études urbaines à l'UQAM. Elle est porte-parole de l'Alliance Transit, dont plusieurs scénarios sont mis sur la table, dont celui que je viens de vous dire, entre autres, c'est cette augmentation, pollueur-payeur, utilisateur-payeur. Et donc, ça fait quand même beaucoup de sous à la fin de la journée pour ceux qui utilisent un véhicule et qui transportent des marchandises. Donc, c'est sûr que ça nous fait un petit choc. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient avec vos commentaires. 514-790-9850 dans la grande région de Montréal. Et puis, partout au Québec, sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Je vous demande si vous êtes prêts pour une augmentation importante, graduelle, mais importante éventuellement, d'une taxe sur l'essence. On discute ce matin de l'utilité d'augmenter encore la taxe sur l'essence parce que faudrait dire encore, étant donné qu'il y en a déjà des taxes sur l'essence, vous le savez très bien, en particulier dans la région de Montréal, on paye un peu plus qu'ailleurs d'ailleurs pour ça. Il y a l'immatriculation aussi où chaque 3, 4, 5 ans, vous avez des augmentations. Les motocyclistes m'écrivent en ce moment et puis ils me disent qu'ils payent vraiment plus cher par rapport à ce qu'ils conduisent. Bref, tout le monde est un peu mécontent de cette idée. Je vais vous poser la question, Fernand. Est-ce que vous comprenez quand même que l'enjeu, c'est de dire oui, c'est vrai, maintenant, on consomme moins d'essence à force de nous dire acheter de l'électrique, il faut être écologique, tout. Alors, ça fait moins de revenus de taxes. Donc, s'il y a moins de revenus de taxes, il faut augmenter ses revenus d'une autre façon. Et la logique facile, c'est d'augmenter les taxes actuelles. Vous en pensez quoi, vous?
Moi, je pense que ça n'a absolument aucun bon sens. Les gens vont tout simplement payer, puis ils vont remplir leur réservoir, puis ils vont circuler pareil. Mm-hmm. Je pense que dans la situation où on se trouve en ce moment, on est rendu à une étape où on doit plutôt envisager des lois, plutôt que de se fier sur le bon sens des gens. Je vais même aller plus loin que ça. Si je prends la 25, je reçois une belle facture par la poste pour me dire « t'as passé sur mon pont, ça te coûte 8 $ Mm-hmm. Bon, ça amène un peu les péages, mais moi, j'irais plus loin que ça. Je mettrais des permis de circuler. Il y a des gens qui sont sur la route, là, il est presque 11 h, puis l'autoroute 15 est encore bloquée. Il y a trop de gens sur les routes qui n'ont pas d'affaires là. Moi, je mettrais des permis de circuler. S'il y a le transport en commun, c'est just too bad, mon ami, tu vas prendre le transport en commun, point à la ligne. Le permis de circuler, lui, il va coûter quand même plus cher qu'une passe pour le transport en commun. Ça va financer pour les routes, puis ça va financer pour les transports en commun. Ça va se payer tout seul. On n'a pas besoin de taxes.
Ouais. Si c'est un peu raide, votre affaire, par exemple. Je vous dis ça de même, là. Moi, je trouve ça un petit peu raide, là. J'imagine un monde où il y a du monde qui ont le droit de circuler, puis une autre catégorie de personnes qui n'auraient pas le droit de circuler. Je sais pas, ça, j'aurais peur de ça, mettons, mais bon.
Ça revient un peu à ce qu'on disait, le payage au kilomètre, ouais. Le droit d'utiliser les routes, ça revient un peu à ça.
Si t'as de l'argent, tu peux être sur la route. Si t'as pas d'argent,
Il faut comprendre que on parle de ça depuis longtemps, puis l'inaction, la nécessité de réduire les émissions font que chaque année qu'on fait rien, ben le coût d'agir à la fin va être beaucoup plus grand, puis le choc pour tout le monde beaucoup plus grand. Mais parce qu'on est pris là-dedans aussi. L'inaction des 10 dernières années, des 15 dernières années, augmente la vitesse à laquelle on doit se transformer. Ouais. Puis l'inaction actuelle fait que ça va nous coûter encore plus cher demain. Donc, on est pris aussi. On a de moins en moins de marge de manœuvre.
Ouais. On doit prendre une transition énergétique. De 90 à 2016, les GES au Québec ont baissé de 9,1%. Le parc le plus polluant, bien sûr, c'est le transport, 43%. Le transport routier, 34%. L'industrie a quand même baissé, donc de 24%. Le transport a augmenté de 20%. Si on réglemente l'industrie, bon, les déchets, la consommation, tout ça, on voit des gains d'efficacité là-dessus au niveau des GES. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir une transition énergétique responsable par nos gouvernements? La voiture électrique, le moteur roue, où est Hydro-Québec dans l'électrification des transports?
Partez-nous pas sur le moteur roue parce qu'on a des grands fans qui vont nous appeler.
Mais j'en suis, écoutez, ouais. Non mais regarde, justement, où est la transition énergétique? Là, on parle de la Norvège. La Norvège a un fonds souverain de plus de 1 000 milliards. Ils ont pompé du pétrole comme jamais durant les 50 dernières années. ils sont maintenant indépendants financièrement. Ils subventionnent. Écoutez, il y a une transition énergétique qu'il faut qu'on comprenne. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite dans l'approche non plus. Il faut qu'on regarde le portrait dans son ensemble.
Je pense que le rapport dont on parlait ce matin avec Florent Jonca-Denault qui nous expliquait là, qu'il fallait augmenter de façon substantielle les taxes si on voulait payer nos besoins en transport futur et en transport collectif. Je pense que j'ai l'impression que c'est une mesure qui nous ont garoché comme ça tellement immense pour nous donner une espèce d'électrochoc. Genre, regardez, là, c'est ça qui nous attend. Après, bon, il y a sans doute d'autres solutions. Jean, quelle est votre opinion là-dessus?
Oui. Bon. On parle toujours du transport.
Mm-hmm.
Mais savez-vous que 30% des GES proviennent de l'agriculture puis
exactement.
De la foresterie?
Ben oui, le méthane. Ouais. Le méthane, c'est bien pire que le CO2.
Alors, pourquoi ne pas utiliser... Regardez, en Ontario, là, ils ont 100 hectares en serre, en production. Au Québec, on en a 900. Monsieur Legault, lui, cherche à vendre notre électricité à 2 cents du kilowatt à qui en veut. Pourquoi ne pas faire une action générale là, pour dire, au Québec, on va produire en serre?
Ah, ben oui.
Imaginez-vous, là, un brocoli là, en hiver, combien que ça prend du GES pour l'amener ici? Alors qu'on pourrait le produire en serre ici.
Mais on n'est pas à
30 %. Le financement pourrait se faire par le fonds vert.
Normand, vous disiez que
c'est pas 30 % au Québec, les émissions de gaz pour
non.
Ça.
Non.
C'est l'agriculture.
Répétez donc pour...
Agriculture et foresterie, ben écoutez, moi je l'ai pris à Semaine verte.
Ouais.
Qui disent que 30 % des GES...
Peut-être avec foresterie.
L'agriculture et la foresterie.
Les hausses de la gestion du fumier, par exemple, ça a été 32 % effectivement. De 90 à 2016.
Bon, merci Jean de ces infos. Puis bon, ben, c'est intéressant parce qu'il dit qu'il y a peut-être d'autres moyens aussi, là, Normand.
Oui, il y a des moyens. Il faut agir sur plusieurs aspects en même temps. On peut pas. On doit réduire de 37,5 pour 2030 nos objectifs qu'on s'est donnés de manière commune. Il nous reste encore à peu près 30 % de réduction, là. Un tiers à peu près qu'on doit réduire nos émissions sur 10 ans.
OK, on fait ça comment?
Ben, c'est pour ça qu'on peut pas. On doit toucher au transport.
Augmenter la taxe. Mettons qu'on prend cette proposition-là. Ouais. Là.
Mais c'est pas suffisant d'augmenter la taxe parce que les gens n'ont pas d'alternative. Ils peuvent pas. Donc, il faut investir. L'Allemagne a dit, on va investir 100 milliards de dollars pour la transition, 100 milliards d'euros, 150 milliards de dollars d'ici 2030, dont 86 milliards à peu près en transport en commun. Parce que si on n'offre pas des alternatives, les gens sont pris avec leur auto. Au Québec, bon, on n'est pas la taille de l'Allemagne, mais ça implique qu'il faut mettre beaucoup d'argent en transport en commun puis aller vite. On prend des projets, ça prend une éternité au Québec, les transformer. On structure.
C'est pas qu'on n'a pas la taille de l'Allemagne, on n'a pas la force économique de l'Allemagne. Là.
Ni la vision. Où sont les trains au Québec versus en Allemagne?
Complètement. Là, c'est pour
en
ça
France.
Qu'on peut bien, puis vous comparez l'Allemagne, vous comparez la Norvège. Moi, je veux bien qu'on se compare à d'autres, pas rapport, mais je veux dire, on va nulle part. Là. Regardons ici au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben, il faut investir. Le REM se fait en 5 ou 6 ans. On voit que c'est pas impossible de mettre en place des infrastructures de transport efficaces qui vont être rapides. Mais il faut en lancer d'autres projets comme ça au cours de
la ligne rose doit aller à Laval et sur la rive sud également. S'il y a une prochaine ligne de métro, qu'elle soit en surface ou souterraine, elle doit aller chercher les gens des couronnes. Ne pas avoir ce discours-là tient d'une irresponsabilité au niveau environnemental évidente. Si vous voulez qu'il y ait moins de chars sur la route, il faut qu'on aille les chercher où est-ce qu'ils partent les autos.
Mais donc, vous êtes contre le troisième lien à Québec, alors, si je vous écoute? Là.
Je pense que le gouvernement est même contre aussi, parce qu'on voit qu'il y a comme une vaste hésitation, puis là, qu'ils sont en train de parler de
mais
payage.
C'est un engagement électoral.
Ben,
tout le monde a voté pour eux dans le coin de Québec, fait qu'ils sont comme pris avec ça. Là.
On entend parler du TGV depuis que je suis au cégep. Là, on remonte à 92.
TGV où?
À la ligne le Windsor, là, Montréal, Windsor,
Québec. On
n'en a
pas
vu. Regardez, là, hein, j'ai 44 ans. Là.
Ah non, mais c'est ça.
Bon, c'est ça, là.
On revient après la pause. Oh mon Dieu, si vous étiez dans le studio, là, on était parti sa corruption sur les travaux, sur la congestion qui dure et qui dure.
Et on là, t'a regardé, Isabelle.
Et là, on est juste lundi matin, puis je manque d'air, c'est pas
on
drôle.
On va demander une tisane.
Mais, non, mais en même temps, moi, quand on me dit et on va augmenter la taxe sur l'essence parce qu'on ne fait plus assez d'argent avec celle actuelle, puis on a des gros besoins, là, ça me fait penser aux sommes astronomiques qu'on va mettre pour rénover des classes de maternelle. Où je me peux plus de me dire, ben voyons donc, ça se peut pas, ces montants-là. Puis d'un autre côté, on nous dit, là, il faut qu'on aille chercher dans votre poche automobiliste parce que parce qu'on n'a pas d'argent. Je comprends que le monde ne veuille pas ce matin payer plus. Là. Ayman, comment vous vous sentez, vous, ce matin? Bonjour, Ayman.
Bonjour.
Êtes-vous d'accord avec ça, une taxe sur l'essence augmentée?
On peut en désaccord et en accord. Ça dépend comment le principe, comment ils peuvent le faire aussi. Si je prends un exemple qui est faisable, je vais parler de tantôt, un exemple qui serait, parce qu'on comporte toujours les robes de quelque chose qu'ils ont pu faire et tout ça.
Ouais.
Moi, je prends un exemple qui pourrait être fait et qui est faisable rapidement. Et on prend l'exemple aussi de la popularité de la SUV, des autos qui consomment beaucoup.
Ouais.
On met ça ensemble. Ce serait d'augmenter les taxes sur ces genres d'autos-là.
Okay.
Qui sont totalement pour moi inutiles. Certains, je vois des personnes qui n'ont même pas besoin de ça. Je comprends certaines personnes qui auraient besoin de ce genre d'automobile pour travailler, mais il y en a d'autres, je vois viser certaines, une mère de famille, ça, qu'elle a deux enfants, puis qu'elle a une auto grosse comme ça, elle a-tu vraiment besoin de ça?
Ayman, je vais vous poser une question. Est-ce que vous roulez à Montréal?
Oui, je roule à Montréal, j'habite à Montréal. Oui.
Mais êtes-vous en vélo ou en voiture?
Je suis en auto, mais c'est sûr que j'ai pris une auto qui consomme le moins possible parce que je veux
non, mais les trous, vous tombez pas dedans? moi, je reviens pas. Je veux dire, c'est pas juste moi là
je comprends ce point-là.
C'est sur les VUS. Moi, je comprends que le monde ait des gros pick-up. Là. Je le comprends tellement. Ça te prend un maudit tank pour être dans les rues de Montréal.
Ça va prendre le Tesla électrique, le camion.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Là.
Bientôt, le camion Tesla électrique.
Bon, merci, Ayman. Mais on retient votre suggestion donc d'augmenter les taxes sur les gros véhicules énergivores. Ça a déjà été suggéré un petit peu plus tôt dans l'émission. André, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, André.
Moi, je parle. Ce que je m'en allais dire, simplement, je suis un travailleur autonome qui travaille avec son véhicule.
Mm.
Oui, j'ai un plus gros véhicule que la moyenne parce que je fais 65 000 kilos par année. Parce que
méchant pollueur, moi, André!
non, mais je travaille sur la route, j'ai pas le choix.
Mais si
j'avais un petit cap,
ouais.
Je les top, je les brûle.
Ouais.
Je les brûle à ce kilométrage-là.
Ouais.
Mais une voiture électrique, c'est idéal pour ça.
Ben, regardez bien, là, attendez un instant. Là. Le véhicule électrique qu'on a, qui est pas trop cher, c'est la Kona. Mais c'est juste 425 kilos par semaine.
Ouais.
Il y a une réalité.
Vous tombez en hiver, là, vous tombez à 280 kilos. J'en ai pas assez.
Ouais. Il y a une réalité économique que certains élus, certains organismes paramunicipaux, si on peut dire, de transport en commun, qui ne comprennent pas.
On va faire quoi avec les travailleurs autonomes? C'est ça, là. On travaille sur la route, nous, tout le temps. J'avais un véhicule électrique qui serait plus performant, je saute dessus tout de suite demain matin.
Ouais.
Mais là, je suis obligé de m'acheter un véhicule électrique pour l'été, si j'en veux un, et garder mon véhicule à gaz pour l'hiver, pour que je sois capable de rouler.
Oui, tout à fait. Ben merci, André. Effectivement, c'est un bon point. Dominique me dit, quel manque de réalisme. J'habite les Laurentides, mon garçon joue au hockey. L'association regroupe Sainte-Agathe, Mont-Tremblant. Je suis à 20 km des deux endroits. Je peux pas y aller en bicycle.
C'est en trottinette lime.
Oui, il dit, puis c'est la même chose pour tous les autres transports.
La pensée magique.
Quelqu'un dit les Montréalais, mais c'est pas les Montréalais là, qui veulent ça, là, forcément. Là. C'est un rapport qui ne touche pas que les Montréalais.
Non, mais c'est parce que plus on électrifie, en fait, le rapport derrière ça, c'est de dire si on électrifie, par exemple, le transport, ben, les taxes sur l'essence, on va en avoir moins. Mm-hmm. Et il faut quand même continuer à payer pour les routes. Une voiture électrique va aussi user les routes. Donc, il faut trouver une façon d'aller chercher l'argent, une partie de l'argent qu'on va perdre comme ça.
Mais je retiens ce que Florence Jonquin de nous a dit tout à l'heure. Elle parlait de la gratuité des routes. Elle a dit la route est gratuite.
C'est pas gratuit.
Et ça, moi, ça a le don de me fâcher un peu parce que non, c'est pas vrai que c'est gratuit. On paye déjà beaucoup. Puis je disais que pendant la pause, on parlait de la, entre parenthèses, guillemets, ou tout ce que vous voulez, là. Je veux pas avoir de trouble, mais de la corruption, puis de...
La commission Charbonneau.
De la commission Charbonneau, que ça fait déjà un petit moment qu'on a quasiment oublié qu'on avait un problème avec ça. Mais bon, il va falloir s'y atteler. Là.
Mais Isabelle, le parc automobile a diminué de 0,1%, je pense, récemment à Montréal. Et donc, ça fonctionne. Il y a moins de voitures tranquillement qui s'en viennent parce que le cocktail de transport fonctionne.
Mais elle nous l'a dit, donc moins de taxes, donc il faut augmenter.
Mais l'argent est dans les budgets, c'est déjà là. Toujours en demander plus à l'utilisateur, un instant. Prêchons par l'exemple, et après ça, demandons-nous-en après.
Merci beaucoup à tous les deux. Normand Mousseau, Marc-Antoine Desjardins, ce n'est que le début de cette conversation. À tout de suite, tout le monde, après les nouvelles.